heure pour vous de retrouver. Antoine, merci pour son journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, s'interroge sur son maintien au gouvernement. Il affirme qu'il dira cet été s'il sent que les conditions ne sont pas remplies sur la mise en place des politiques qu'il défend. Nous l'entendrons ainsi que l'analyse de Véronique Reberotte. Le PDG de la PHP, Martin Hirsch, annonce un plan de 30 millions d'euros pour mettre en place des caméras de surveillance et un réaménagement des accueils dans les hôpitaux, notamment aux urgences, afin de répondre, notamment de faire face aux comportements de plus en plus violents de la part des patients et de leur entourage. Précision de Mao de Butler. Menace apparente sur le futur sommet américano-nord-coréen qui doit se tenir le 12 juin prochain à Singapour. Pyongyang menace de l'annuler si Washington cherche à l'acculer, à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. On fera le point avec Marie-Pierre Béraud. Le pape François qui se dit très préoccupé par l'escalade des tensions en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Et le Guatemala qui transfère son ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, deux jours après le transfert de celle des États-Unis. Notre invité tout à l'heure, le politologue David Kalfa, pour parler de ces évolutions géopolitiques au Proche et au Moyen-Orient. Un an donc après la formation du gouvernement d'Édouard Philippe, l'exécutif s'interroge sans doute sur l'opportunité d'un remaniement, on en parle en tout cas ces derniers jours, et certains ministres font part ouvertement de leur interrogation. C'est le cas en tout cas de Nicolas Hulot ce matin, invité de BFM TV. Le ministre de la Transition écologique indique qu'il fera le point à l'été sur sa présence au gouvernement. Il ajoute qu'il en tirera donc les leçons s'il sent que les conditions ne sont pas remplies pour la mise en place des politiques qu'il défend. On écoute ce qu'il disait donc ce matin à la télévision.
Pour répondre très clairement, là je suis en pleine action parce que je viens de lancer un plan de rénovation thermique, on va lancer le plan d'hiversité avec Brune Poirson, on a lancé une feuille de route économie circulaire, nous sommes dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a les assises de l'eau. Jusqu'à l'été, j'ai la tête sous l'eau. Cette évaluation-là, je la ferai cet été. Il y a une chose que je sais mal faire, je peux le faire comme tout le monde, c'est mentir. Et surtout mentir à moi-même. Donc cet été, là je ferai cette évaluation. Voilà. Et je pense que cet été, j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale.
Nicolas Hulot, donc, c'était avec Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Hulot qui a la tête sous l'eau et qui aura donc plus tard suffisamment d'éléments pour savoir ce qu'il doit faire, en fonction de quoi, Véronique Reberotte, Nicolas Hulot va-t-il se déterminer ?
Sur sa capacité à inverser ou pas la tendance à faire en sorte que les paroles macroniennes sur l'environnement, sur le climat, surtout se traduisent enfin en actes forts, concrets, surtout quand on sait que ce qui n'est pas impulsé durant la première année du quinquennat ne l'est pas forcément après. Alors, en plaçant le ministre de la Transition écologique et solidaire au troisième rang dans l'ordre protocolaire du gouvernement, Nicolas Hulot s'attendait lui-même, le premier, à voir l'écologie devenir la colonne vertébrale de futures politiques publiques. Il aurait dû se méfier, on peut pas dire que le candidat Macron semblait particulièrement intéressé par cette question durant sa campagne. Très vite, Nicolas Hulot n'a pas caché son désespoir, il l'exprimait. Aucune réforme de grande ampleur dans le domaine de l'environnement n'a été entreprise jusque-là, n'est même en vue, alors qu'elle foisonne dans d'autres domaines. Les résultats sont donc maigrichons, interdiction limitée du glyphosate, recul dans la définition des perturbateurs endocriniens, influence plus que minime dans les états généraux de l'alimentation, action plutôt faiblarde en matière aussi de réduction des gaz à effet de serre en France, recule aussi de la baisse du nucléaire dans le mix énergétique tel que le prévoyait pourtant la loi sur la transition énergétique. Nicolas Hulot a même très mal vécu. On sait qu'on lui demande à lui-même d'annoncer la nouvelle que cette échéance était abandonnée. C'était en novembre dernier. Depuis, Emmanuel Macron ne cesse de trouver des qualités à l'atome, le nucléaire, choix d'avenir. La discussion va donc revenir sur le tapis ces prochains mois, cet été, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là, c'est là que Nicolas Hulot pourrait bien sûr décrocher des définitivement d'un gouvernement qui ne se donnerait pas les moyens de sortir un jour progressivement donc du nucléaire. La seule vraie victoire du Nicolas Hulot, eh bien, c'est l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport, dealé peut-être, négocié peut-être au moment de son entrée au gouvernement, même si l'avenir de la ZAD, sa gestion s'annonce compliquée. Et là aussi, cela pourrait rejaillir sur Nicolas Hulot.
Merci beaucoup Véronique. Reberotte, on est en ligne avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Pollingvox. Bon, c'est assez inhabituel qu'un ministre s'interroge comme ça publiquement sur son maintien au gouvernement. Mais disons que c'est le cas de Nicolas Hulot un peu spécifique. Ça paraît quand même d'assez mauvais augure pour son maintien dans l'équipe gouvernementale.
Oui, pas forcément. Nicolas Hulot, lui, n'est pas tenu par un mandat électoral. Il a Il a été sollicité pour faire rentrer en gouvernement, et c'est pas la première fois. Il a donc beaucoup de ressources personnelles, de ressources dans l'opinion. Là, il entame en quelque sorte une forme de bras de fer avec le Premier ministre, avec le chef de l'État, pour obtenir davantage, probablement, sur son dossier. Ça peut être aussi une forme de négociation qui se fait à ciel ouvert, parce que la principale ressource de Nicolas Hulot, c'est sa très bonne image dans l'opinion publique.
Alors, il y a aussi quand même, on parle d'un remaniement, il y a aussi d'autres ministres, comme ça, venus de la société civile, parfois, qui seraient menacés, qui ne seraient pas assez politiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va quand même vers un réaménagement de ce gouvernement d'ici les semaines qui viennent?
Ça, c'est probable. En tout cas, plusieurs promesses de renouvellement politique ont été tenues par Emmanuel Macron depuis son élection, notamment le fait d'avoir fait éclater le clivage gauche-droite. Inversement, on voit bien cette idée d'opposition d'un nouveau monde de la politique face à un ancien monde. Le premier aurait été celui de la société civile qui émergerait face à la vieille classe politique. Eh bien, ce projet-là, celui du nouveau monde, ne fonctionne pas vraiment, il ne fonctionne pas du tout, en tout cas, en ce qui concerne le gouvernement.
C'est tout de même un peu un semi-échec, enfin, pour Emmanuel Macron. Il va devoir gérer cela, puisqu'on se rend compte que, finalement, pour faire de la politique, vaut mieux être impolitique, précisément.
Oui, les prochaines années du quinquennat seront sans doute marquées par la normalisation politique de La République En Marche. Elle doit trouver un ancrage local, elle doit essayer aussi de se professionnaliser à l'Assemblée nationale, et elle doit ressembler enfin à un vrai parti, et elle doit donner au gouvernement des gens, des cadres, qui sont expérimentés politiquement. Pour l'instant, tout va plutôt bien pour le gouvernement. Il y aura l'usure du pouvoir, il y aura l'attente des résultats. Là, il faudra sans doute sortir d'un gouvernement où beaucoup de figures, finalement, sont très discrètes, pour ne pas dire plus.
Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut Pollingvox, d'avoir été en ligne avec nous. Entretien Sud-Ouest de François Bayrou, qui estime que l'équilibre du et en même temps présidentiel n'a pas été perçu par les Français. Il cite l'annonce simultanée des facilités accordées aux investisseurs et les efforts demandés à d'autres parties de la population. Le président du Modem note qu'il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour deviner les effets que cela aura au sein de la population française. Davantage de caméras dans les hôpitaux pour lutter contre les incivilités, constatant que le personnel médical doit faire face à des comportements de plus en plus violents de la part des patients et de leur entourage, eh bien le patron de l'APHP, Martin Hirsch, annonce ce matin dans une interview au Parisien un plan de 30 millions d'euros qui prévoit précisément la mise en place de caméras de surveillance et aussi un réaménagement des accueils. Bonjour Mao de Butler.
Bonjour.
Peut-être un mot d'abord sur ce constat de Martin Hirsch qui a présidé à l'élaboration de ce plan.
Oui, c'est un phénomène qui s'aggrave. Les soignants sont de plus en plus victimes d'incivilité, voire de violence de la part des patients et de leurs familles. Dans les salles d'attente, on les insulte, on les frappe. Le personnel fait face à des patients qui se sentent ignorés, qui peuvent attendre des heures avant d'être pris en charge, qui souffrent parfois de troubles psychiatriques. Il y a aussi derrière cela un problème de société qui touche les services d'accueil en général, à la poste, à la banque aussi, les usagers sont plus exigeants, plus agressifs. Mais à l'hôpital, la situation est encore plus tendue, car à l'impatience s'ajoute l'angoisse et l'émotion des malades.
Alors que prévoit ce plan, notamment des caméras?
Exactement, Martin Hirsch veut installer 1500 caméras de surveillance en plus dans les hôpitaux de région parisienne d'ici 3 ans, pour un coût, vous l'avez dit, de 30 millions d'euros. Bien sûr, le dispositif n'empêche pas les bagarres, les coups ou les insultes, mais il peut faire effet de dissuasion, d'autant que cette mesure sera accompagnée d'une campagne de prévention. Les soignants seront encouragés à signaler ce que Martin Hirsch appelle des événements indésirables. Et parce que la vidéosurveillance ne suffit pas, le patron de la PHP plaide aussi pour un meilleur accueil des patients et de leurs proches, afin d'améliorer la communication et donc la civilité. Pour lui, il ne s'agit pas de faire de l'hôpital un bunker, mais de concilier accueil et sécurité.
Mao de Butler, merci beaucoup. Parmi les réactions, celle de Philippe Juvin, chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, eurodéputé Les Républicains, qui évoquait ce matin sur France Info le bon plan de Martin Hirsch.
D'abord, il y a une évolution de la société qui est plus violente dans son expression. On l'observe, hein, la courtoisie, le calme, ce sont des qualités qui ont commencé à se perdre. Et aux urgences, quand vous attendez en plus, vous êtes inquiet, vous avez l'impression que vous n'êtes pas prioritaire, que d'autres passent avant vous, et bien tout ça se traduit par de la violence, qui peut être verbale et qui peut être physique aussi. Et là, Martin Hirsch dégaine une arme réelle, technique, qui va s'appliquer, Et la mise en œuvre de vidéosurveillance, bah, c'est à la fois de la prévention, parce que les gens savent qu'ils sont filmés, donc ils font attention. Et puis, c'est la possibilité aussi de rattraper les mauvais garçons, ceux qui auraient fait des sales coups. Ouais, c'est une très, très bonne idée.
Philippe Juvin, donc, sur France Info. On est en ligne maintenant avec Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous partagez cet avis, ce satisfecit de Philippe Juvin donné au plan Hirsch ?
Non, absolument pas. Les caméras sont un moyen technique parmi d'autres. Moi, je préférerais qu'on utilise des caméras pour faire de la bonne télémédecine. Des caméras de surveillance sont placées aujourd'hui partout. Leur efficacité, selon les spécialistes, est assez limitée. Ça peut être utile, effectivement, pour pouvoir surveiller a posteriori, avoir des éléments sur un dysfonctionnement, sur une agression, pour retrouver les auteurs. Mais le principal problème aujourd'hui dans les hôpitaux en Ile-de-France, c'est la désorganisation, le manque de moyens, de personnel, des locaux, des urgences inadaptées contre lesquelles nous protestons depuis des années. Nous souhaitons que les services d'urgence soient rénovés, et pas uniquement en mettant des caméras, mais pour qu'on puisse avoir des circuits séparés entre les patients qui viennent pour une simple consultation, qui viennent sur leurs deux jambes, qui vont repartir sur leurs deux jambes, donc ils peuvent être dans une salle d'attente conviviale, ceux qui arrivent couchés, qui ne doivent pas rester dans les couloirs, donc il faut que suffisamment de box d'examen et suffisamment de lits derrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et les patients potentiellement dangereux, principalement des patients psychiatriques ou des patients qui sont amenés par les forces de police qui, eux, doivent être dans un circuit séparé et absolument pas mélangé avec les autres.
À vous entendre, ça paraît assez évident. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas ?
Ah ben parce que ça coûte très cher. C'est pas le coût de quelques caméras, là. C'est, vous savez, les services d'urgence, un certain nombre de services d'urgence à l'assistance publique ont des locaux, alors que leur activité a été multipliée par deux ou par trois, qui n'ont pas été modifiés, où il y a juste eu un petit coup de peinture, quelques aménagements, depuis 30 ans. Vous voyez, donc nous sommes dans des locaux exigus, avec une augmentation d'activité et un personnel insuffisant. Vous voyez, dans les exemples cités par le spécialiste de ces questions à l'assistance publique cité dans la presse aujourd'hui, on parle de mon hôpital en Seine-Saint-Denis, l'hôpital Avicenne. Très bien, nous avons des accès qu'il faut rénover, on va les sécuriser, très bien. Mais par contre, j'aimerais bien que le plan de M. Martin Hirsch supprime le plan d'économie qui nous est demandé dans notre hôpital, qui va se traduire par 55 suppressions de postes de personnel soignant et 8 postes de médecins. Alors que l'activité augmente, on nous demande de faire des économies. Alors si M. Martin Hirsch a 30 millions d'euros à mettre dans un plan pour la sécurité, il serait bien qu'il ait aussi de l'argent pour ne pas supprimer les personnels, pour rénover les services d'urgence pour qu'ils soient beaucoup plus conviviaux, qu'on ne laisse pas les patients sur des brancards dans les couloirs et qu'on les dédie pour les hospitaliser. Et c'est ça, c'est un ensemble de mesures-là. On nous sort régulièrement, parce qu'il y a des cas qui sont médiatisés, des solutions miracles. On va mettre des caméras. Non, le problème aujourd'hui, c'est comment on rétablit la confiance avec les patients. Et rétablir la confiance avec les patients, c'est avoir du temps pour discuter. C'est avoir du temps pour effectivement faire diminuer la tension qui est liée à l'angoisse légitime. Quand on vient aux urgences, on est inquiet, angoissé. Et parfois, quand on a l'impression d'être mal accueilli, et c'est pas, parfois ce n'est pas qu'une impression, c'est la réalité, eh bien le ton peut monter et ça peut, y compris déraper, et se traduire par une agression physique.
Merci.
Donc c'est tout ça, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut traiter, et pas simplement le gris-gris des caméras.
Merci beaucoup. Merci Christophe Prudhomme d'avoir été en ligne avec nous pour nous parler de ce plan donc de Martin Hirsch annoncé ce matin dans le journal Le Parisien. Les rendements des emprunts d'État italiens en forte hausse ce matin, tandis que la Bourse de Milan recule. Publication d'un document qui évoque la volonté du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, les deux parties qui tentent donc de former un gouvernement actuellement en Italie, de demander l'effacement de 250 milliards d'euros de dettes. L'Italie fait peur, constatent ce matin les experts de la finance, pour qui le document publié par le Huffington Post semble confirmer que l'Italie pourrait devenir un sérieux problème pour les marchés financiers et pour l'euro si un gouvernement populiste s'emparait du pouvoir. Une menace apparente sur le futur sommet américano-nord-coréen qui doit se tenir le 12 juin prochain à Singapour. Pyongyang qui menace de l'annuler si Washington cherche toujours à l'acculer, à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Washington exige effectivement la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Marie-Pierre Véro, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que le sommet est vraiment menacé ou bien est-ce qu'il a peut-être déjà commencé ?
Et nous sommes sans doute à ce stade dans la seconde hypothèse, pas une menace réelle sur la tenue du sommet, mais d'évidence, Kim Jong-un entend mettre la pression sur Donald Trump, obtenir des concessions avant le 12 juin, voir jusqu'où le président américain est prêt à aller pour que se tienne une telle rencontre inédite. Donald Trump ne cesse en effet de se féliciter de sa gestion du dossier nord-coréen. Il a même mis en bandeau de son compte Twitter une photo le montrant qui accueille les prisonniers américains récemment libérés par Pyongyang. Cela n'a sans doute pas échappé aux Nord-Coréens. Donald Trump aurait-il plus à perdre que Kim Jong-un dans l'annulation du sommet? C'est ce que cherche à mesurer Pyongyang. Mais il y a aussi un agacement réel. Notre bonne volonté a des limites, précise la Corée du Nord, qui a fait pas mal de concessions ces derniers temps. La dernière étant l'annonce de la destruction d'un centre d'essai nucléaire, alors qu'elle n'a vu venir côté américain qu'une rhétorique déplaisante. La manière dont on se glorifie à la Maison-Blanche d'avoir fait plier Pyongyang grâce à la menace, et surtout les propos de John Bolton, le conseiller à la sécurité, qui a comparé le sort de la Corée du Nord à celui de la Libye. La Libye de Kadhafi avait abandonné son programme nucléaire en 2004 en échange de la levée des sanctions. Kim Jong-un, qui a mené son programme justement pour assurer son maintien au pouvoir, pour disposer d'une dissuasion qui le protège, ne pouvait que voir rouge à la perspective d'un sort à la Kadhafi. Bolton est considéré comme répugnant à Pyongyang. Mais au-delà de cette rhétorique, il y a enfin le cadre des discussions, leur nature. À quoi sert une rencontre si les États-Unis en ont déjà décidé l'issue, avance Pyongyang. Washington, vous le disiez, insiste sur un désarmement nucléaire unilatéral total du Nord, processus irréversible et vérifiable, avant toute levée des sanctions. Pyongyang veut parler d'une dénucléarisation progressive de la péninsule. Le parapluie nucléaire fourni par les États-Unis au Sud serait donc aussi concerné, et d'une levée progressive en parallèle des sanctions. Pour avancer sur ce terrain délicat, Donald Trump devra sans doute mettre en sourdine sa rhétorique guerrière, efficace peut-être dans les négociations commerciales, mais moins en diplomatie asiatique.
Voilà, pour l'instant, les Américains disent ne pas être au courant qu'il y a des problèmes pour ce sommet, toujours prévu le 12 juin prochain à Singapour. Merci Marie-Pierre Véraud. En Indonésie, nous sommes quelques jours après une série d'attentats suicides contre la police et des églises du pays. Et ce matin, un commissariat est à nouveau attaqué dans le nord-ouest. 4 assaillants abattus, un policier tué et 2 autres blessés, de même qu'un journaliste d'ailleurs qui était sur place, puisque les médias avaient été conviés dans ce commissariat pour couvrir une conférence de presse sur une affaire de drogue avant que l'attaque ne se produise. Donc celle-ci survient après une autre série d'attaques suicides assez très meurtrières. Il y a eu 13 personnes tuées et autant d'assaillants qui ont péri. Et ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
À quelle logique répond la recrudescence de ces attaques, en tout cas si on les attribue bien à l'État islamique?
Alors, c'est encore difficile à dire. La dernière attaque à la voiture Bélier puis au sabre et visant un commissariat n'a pas ou pas encore été revendiquée par l'État islamique, mais son modus operandi ressemble beaucoup à d'autres attaques en février dernier, au sabre également, et visant cette fois des églises. Elle suit surtout de près les 2 attentats suicides perpétrés par 2 familles dimanche et lundi, visant 3 églises et un commissariat dans d'autres parties de l'archipel indonésien. Ces dernières attaques, elles, ont bel et bien été revendiquées par le groupe djihadiste, mais qui n'a pas indiqué de raison particulière dans sa revendication. Le père de famille de l'un des groupes ayant visé les églises dimanche était considéré par la police indonésienne comme le chef de la branche locale des Jemaah Ansarut Daulah, littéralement les partisans du groupe État islamique. Plus d'une 50aine de bombes artisanales ont été retrouvées à son domicile. Fondée en 2015, les Jemaah Ansarut Daulah regroupent une 20aine de cellules islamistes indonésiennes ayant toutes fait allégeance au calife autoproclamé Abu Bakr al-Baghdadi. L'attaque la plus spectaculaire dans l'archipel, revendiquée par le groupe, a été conduite en janvier 2016 au centre de la capitale, Jakarta, où un café avait été pris d'assaut par des hommes armés, un peu à la manière des attentats de Paris. Elle n'avait fait que 2 victimes civiles, en plus des 4 assaillants abattus par la police. Depuis dimanche, en revanche, on compte 15 victimes. La police indonésienne estime que cette série d'attaques pourrait être liée à la récente condamnation du numéro 2 des Jemaah Ansarut Daulah, arrêté alors qu'il transférait des armes à un groupe radical indonésien basé aux Philippines voisines. Ce qui reste certain, c'est que en déshérence en Syrie et en Irak, le groupe État islamique a manifestement renforcé ses positions en Asie du Sud-Est, particulièrement dans ces archipels où les États de la région, Philippines, Indonésie ou Malaisie, ont parfois bien du mal à imposer leurs droits, et que la période du Ramadan, sur le point de commencer, est depuis quelques années le moment privilégié des djihadistes pour lancer leurs attaques.
Éric Bégala, merci. Les délégués permanents de la Ligue arabe réunis au Caire officiellement pour parler du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, initiative qualifiée de violation claire du droit international par le secrétaire général de la Ligue arabe. Les représentants donc vont parler aussi de la situation à Gaza, naturellement qualifiée d'agression israélienne contre le peuple palestinien. Mais en Égypte, en tout cas, ces manifestations de solidarité qui étaient souvent organisées, solidarité avec les Palestiniens, ne sont plus vraiment encouragées. François Hume, Ferkatadji.
L'histoire contemporaine égyptienne est marquée par les grandes manifestations de solidarité avec les voisins palestiniens. Pourtant, depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi, les Égyptiens ne sortent plus dans la rue pour dénoncer l'occupation israélienne. Et pour cause, il est strictement interdit de manifester dans le pays. Ces derniers jours, des dizaines de camions de police ont réinvesti les rues du Caire. Ce renforcement sécuritaire n'est pas anodin. Le gouvernement ne veut pas voir les Égyptiens se rassembler, même pour la défense de la Palestine. D'autant que l'Égypte s'est considérablement rapprochée d'Israël ces dernières années, sur le plan diplomatique, économique, mais aussi militaire. Le New York Times révélait récemment que l'aviation israélienne menait des frappes aériennes toutes les semaines depuis plus d'un an sur le territoire égyptien pour soutenir l'armée égyptienne qui lutte contre les insurgés djihadistes dans le nord du Sinaï. Il y a quelques mois, Israël a signé un contrat record de vente de gaz à l'Égypte et il y a tout juste une semaine, l'État hébreu organisait une grande réception en plein centre du Caire dans un hôtel de luxe de la place Tahrir pour célébrer le 70e anniversaire de la création du pays, encore impensable il y a quelques années. Le bailleur de fonds de l'Égypte et géant de la région, l'Arabie Saoudite, n'est pas moins proche d'Israël. Les deux pays ont créé une forme d'alliance objective dans leur guerre froide contre l'Iran, qui se veut de plus en plus influent. La réunion de la Ligue arabe au Caire débouchera donc certainement sur une pluie de condamnations, mais dans les faits, les grands pays sunnites du Moyen-Orient n'ont pas pour priorité de soutenir la cause palestinienne. L'Égypte participe d'ailleurs au blocus de la bande de Gaza, en maintenant fermé quasiment toute l'année le point de passage de Rafah.
Le pape François se dit très préoccupé ce matin par la spirale de la violence en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Déclaration à l'issue de sa traditionnelle audience générale du mercredi, pendant laquelle il adresse également ses vœux cordiaux à la communauté musulmane à l'occasion du mois de Ramadan qui commence donc ce jeudi. La Turquie renvoie temporairement le consul général d'Israël à Istanbul. Le ministère turc des Affaires étrangères avait annoncé hier une mesure similaire contre l'ambassadeur d'Israël à Ankara. Et puis entretien téléphonique entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Hier soir, M. Macron qui a de nouveau condamné les violences d'hier, souligné l'importance de la protection des populations civil, du droit à manifester pacifiquement, pour revenir sur les réactions dans la région et les conséquences aussi géopolitiques de ces derniers événements. On est en ligne avec David Kalfa, politologue spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
La France, apparemment, en tout cas, continue à chercher à jouer un rôle de médiateur, à revenir dans la région comme médiateur dans ce conflit. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle en a les moyens ou qu'elle a certaines cartes à jouer ?
Écoutez, en fait, la France, elle a toujours eu un rapport privilégié avec cette région, on le sait, historique, politique, économique, ça date d'ailleurs du XVIIIe siècle. La France a été une puissance mandataire au début du XXe siècle, notamment en Syrie et au Liban. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on assiste quand même à un reflux de l'influence française, hein, parce que la France est une puissance moyenne. Elle a encore des leviers, mais ces leviers sont limités, notamment parce que ce sont plutôt les puissances régionales et l'évolution des rapports de force régionaux qui jouent un rôle majeur, notamment la Turquie, Israël, l'Iran, l'Égypte bien sûr, mais aussi des puissances internationales comme les États-Unis et la Russie.
Alors justement, c'est l'occasion de voir comment les événements de ces dernières semaines, hein, depuis par exemple le retrait américain de cet accord sur l'Iran, ont pu mettre en évidence des changements sensibles dans les équilibres géopolitiques régionaux et finalement le rôle des acteurs qui s'est un petit peu modifié.
Oui, alors ce qui moi me frappe, si vous voulez, c'est notamment ce qui s'est passé ces dernières semaines, en effet, alors sur le front syrien, avec la riposte israélienne suite au tir de missile iranien, on a quand même vu le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, hein, qui a soutenu publiquement le droit d'Israël à se défendre, brisant ainsi un tabou et éventant par là même un secret de polichinelle. On le sait, hein, la réalité de l'alliance israélo-arabe aujourd'hui face à l'Iran, ce qu'on appelait à l'époque dans les années 70 le front du refus, c'est largement fissuré. Et même sur le dossier palestinien, vous le rappeliez il y a un instant, ce qui est frappant aussi, là encore, c'est le silence qui règne hein, actuellement dans les capitales arabes. Il y a vraiment une division inter-arabe sur le sujet. Et le dossier palestinien n'est plus une priorité pour le monde arabe. Il y a une diplomatie incantatoire, mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment un alignement des intérêts stratégiques entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et les pétromonarchies du Golfe, bien sûr, à l'exception du Qatar et d'Oman.
Et donc on revient à ce clivage fondamental entre l'Iran d'une part et d'autre part le reste des pays de la région, enfin l'influence de l'Iran qui devient le problème principal selon vous, en tout cas ce qui crée la séparation, le clivage entre les puissances.
Ah bah, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'on assiste à nouveau à une régionalisation de la question palestinienne. On voit bien qu'il faut interpréter, si vous voulez, l'énième affrontement israélo-palestinien dans le cadre de la reconfiguration régionale. C'est très clair, puisqu'il y a vraiment une divergence d'intérêts très nette, notamment entre l'Égypte, la Jordanie, enfin le camp dit arabe sunnite modéré d'un côté, et l'Iran, la Syrie, le Hezbollah de l'autre. D'ailleurs, plus particulièrement sur le dossier gazaoui, on a assisté ces derniers jours à une tentative avortée de médiation égyptienne qui avait un double objectif, à la fois éviter un débordement sur sur la frontière, puisqu'il y a une frontière commune entre l'Égypte et la bande de Gaza, mais aussi une volonté du Caire de réduire l'influence de la Turquie et du Qatar dans la bande de Gaza.
David Kalfa, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc de ces évolutions géopolitiques dans la région. Un mot du temps avec des éclaircies sur la plupart des régions en France cet après-midi, avec encore des averses du côté de l'Est, des températures en légère hausse, 15 à 25 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.